One small step for man, one giant leap for mankind.
La quadrature du cercle, l'infusion scientifique de Radio Méga. Une émission proposée et animée par Marc Bionomo.
Bonjour à chacun et chacune d'entre vous et bienvenue dans cette 77e quadrature du cercle, une émission décalée aujourd'hui, décalée géographiquement, humainement, météorologiquement, bref. Une émission que j'espère riche de différentes cultures et approches, une émission d'ailleurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est justement à Montréal, dans les locaux de Radio CISM, que se fait cette quadrature. Merci à Étienne Dubuc de nous accueillir. Étienne, ça va? On est prêt à démarrer?
Je suis 100% prêt à démarrer, Marc.
Ah ben, c'est super.
L'invité de la quadrature du cercle.
Ingrid Hall.
Bonjour Ingrid Hall. Alors, vous êtes chercheure à Montréal, au département d'anthropologie de l'Université de Montréal, plus précisément. Et vous vous intéressez à de nombreuses questions et on va essayer de les développer si on a assez de temps. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter la légende des étoiles errantes. Il y a bien longtemps, dans une tribu autochtone qui habitait au cœur d'une vaste forêt, vivait un sage nommé Nokomis. Nokomis était respecté pour sa sagesse et sa connaissance des mystères du ciel. Chaque nuit, il contait à son peuple les histoires des étoiles qui brillaient au-dessus d'eux, tissant des récits merveilleux sur leurs origines et leur voyage à travers le firmament. Selon la légende, il existait un groupe d'étoiles appelées les étoiles errantes. Ces étoiles, autrefois unies dans un seul foyer céleste, s'étaient dispersées lors d'un grand conflit divin. Chacune portait en elle une part de l'éclat originel, mais elles erraient désormais seules à travers le cosmos, cherchant à retrouver leur ancienne unité. Parmi ces étoiles se trouvait le guerrier du Nord, la gardienne des saisons et le chasseur solitaire. Chacune avait sa propre histoire, son propre destin, mais toutes partageaient le même désir ardent de se retrouver. Et selon Nokomis, lorsque les étoiles errantes brillaient plus intensément dans le ciel, c'était le signe que leurs esprits étaient en émoi, que leurs chemins se croisaient à nouveau dans leur quête de réunion. Les anciens de la tribu observaient avec émerveillement ces scintillements célestes, interprétant les mouvements des étoiles comme un message des esprits de leurs ancêtres. À travers les générations, la légende des étoiles errantes est devenue une source d'inspiration et de réflexion pour le peuple autochtone. Ils y voyaient dans le ciel nocturne bien plus que de simples points lumineux. Ils y voyaient les récits vivants de leurs ancêtres, les rappels de leur propre histoire et les promesses d'un avenir où toutes les âmes errantes pourraient enfin trouver leur chemin de retour. Ainsi, chaque nuit, tandis que les étoiles scintillaient au-dessus de la forêt, les membres de la tribu se rassemblaient autour de Nokomis pour écouter les histoires des étoiles errantes, se connectant ainsi avec le vaste cosmos qui les entourait et nourrissant leur lien intime avec le divin. Alors Ingrid Hall, je ne sais pas ce que vous inspire cette légende au vu de vos recherches, mais je ne voudrais pas vous mettre en défaut, alors je vous explique. C'est une légende un peu particulière, c'est une légende IA, une légende ChatGPT. Cette légende est une création fictive, mais une création fictive inspirée par des motifs communs trouvés dans plusieurs récits mythologiques et croyances traditionnelles de nombreux peuples autochtones à travers le monde. Donc elle ne provient pas d'un peuple scientifique, mais plutôt de la fusion d'éléments tirés de différentes cultures, tout en respectant bien sûr l'esprit et les thèmes généraux de leurs croyances cosmologiques. Hallucinant, hein ? Ça nous embarque où tout cela, Ingrid Hall ? L'IA se demandera-t-elle bientôt où est l'humanité autochtone ?
Et moi, ça me fait penser à Avatar, des espèces d'autochtones tout bleus, très grands. Ça me fait un peu peur.
Ça me fait un peu peur. Vous n'avez pas envie d'être confronté à ça professionnellement ?
Non.
Alors, Ingrid Hall, comme... All over the world, ou peut-être all comme un passage, comme on dit souvent de nous autres, d'ailleurs, les pauvres humains dans nos vies.
Ah ben pourquoi pas? Oui, ça me plaît, ça. Plutôt que d'un hall d'attente, ça me change un peu, là, de ce genre de figure.
Une humaine qui passe comme ça sur la planète et qui s'intéresse aux autres.
Ouais, puis qui va d'un endroit à un autre et qui essaye de comprendre des choses et puis d'essayer de les expliquer à d'autres.
À d'autres. Alors, ben, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission. Mais moi, j'ai jamais entendu des enfants répondre « anthropologue ». À la question, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Vous aussi, c'est ce que vous répondiez ?
Ah non, moi j'avais aucune idée, mais j'ai même une formation qui ne commence pas par l'anthropologie.
Alors ça vient quand alors ? Et comment ?
J'ai fait une formation d'ingénieur en agronomie. Puis, dans ce cadre-là, j'ai commencé à faire des voyages parce que j'étais assez curieuse. Et puis, on me demandait de mettre en place des choses auxquelles je savais à peu près rien. Mais parce que j'avais fait des études, j'étais censée savoir. Et ça m'a menée en Inde, notamment.
D'accord.
Et au Brésil. Puis je me suis rendu compte que ce qui me fascinait, c'était plutôt de comment les gens s'organisaient. Là, je me souviens, au Brésil, il y avait des endroits qui étaient aménagés complètement différemment. Et il y avait un endroit, c'était des Japonais. Donc c'était que de l'horticulture à toute petite échelle, ce qui n'avait rien à voir à ce qui se passait chez les Allemands qui faisaient leur fête de la bière.
Ouais, vous sentiez que l'agronomie scientifique bien cadrée, ce n'était pas universel.
Ce n'était pas ce qui m'intéressait en tout cas.
Oui, surtout, c'était
ça. Oui, ouais, c'est ça.
Mais alors, c'est quoi pour vous l'anthropologie ?
Ben, l'anthropologie, alors ça dépend un peu. Moi, en Amérique du Nord et à l'Université de Montréal, l'anthropologie, c'est un grand projet de compréhension de l'humain avec 4 sous-disciplines. Alors, donc, il y a le biologique, il y a l'archéologie, il y a la dimension linguistique et puis l'ethnologie. Donc, l'ethnologie, c'est une de ces sous-disciplines-là. En France, plus généralement, l'anthropologie, c'est l'ethnologie, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça, j'allais vous poser la question parce que c'est pas très clair. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ethnologie ? Qu'est-ce que c'est que l'anthropologie pour vous ?
Ben, l'ethnologie, c'est le fait de s'intéresser aux cultures du présent et du passé, éventuellement, mais avec une perspective ethnologique. Et l'anthropologie, en tout cas telle que c'est utilisée souvent en France, c'est quand on essaye de tirer des lois générales sur les cultures ou sur les sociétés. Fonctionnement humain, quoi.
La différence est subtile. Anthropos, c'est l'humain, donc on s'intéresse aussi à...
Je crois qu'il y a des sujets dont on va parler un petit peu plus tard, sur lesquels on pourra revenir pour essayer d'expliquer. Est-ce qu'on est pris, par exemple, moi, sur le terrain, est-ce qu'on est pris sur le terrain ou est-ce qu'on essaye de donner des lois générales des phénomènes auxquels on s'intéresse ? Et là, ce n'est pas les mêmes objectifs.
Alors, si on essaye aujourd'hui d'avoir une certaine éthique, ça n'a pas toujours été le cas dans votre domaine. Il y a eu des expéditions de colonisation, de commerce, de stratégie géopolitique qui ont tenté de se cacher derrière des recherches humanistes qu'on pourrait qualifier d'anthropologiques. Comment on sort de là ou comment on est sorti de là si vous estimez qu'on en est sorti ?
Je pense qu'on n'en est pas complètement sorti, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment avec ce qu'on appelle le postmodernisme en particulier, mais c'était déjà amorcé avec des penseurs comme Georges Balandier qui ont pensé la situation coloniale et qui ont dit qu'il fallait prendre ça en considération, qu'on ne pouvait pas travailler sur des sociétés en prétendant qu'elles étaient... comme ça, des sociétés fermées sur elles-mêmes et donc hermétiques aux dynamiques qui les entouraient, qu'elles soient de pouvoir, dynamiques économiques ou même religieuses. Et donc effectivement, il y a un moment, à partir des années 70, et puis dans les années 90, c'est encore plus fort. Et ici, au Canada, c'est extrêmement fort en ce moment-là, puisque la question des autochtones est une question éminemment politique. Et donc la question du colonialisme se pose beaucoup. Pas toujours évident de se positionner, mais en tout cas, on essaye de travailler soit avec les communautés en décidant des sujets sur lesquels on doit travailler, ou au moins en transparence, en disant qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va en faire, de dire ce qu'on a fait après, de pas juste partir et puis publier dans le milieu académique et sans rien donner en retour, sans rien expliquer, quoi.
Mais oui, mais justement, comment on sort de là en étant plutôt du côté des puissants, des pays riches, des civilisations qui ont dominé le monde ? Il faudrait qu'on sorte de là ensemble. Est-ce que les autochtones, quel est leur point de vue là-dessus ?
Alors, ça dépend où. Ici, au Canada, il y a une volonté de plus en plus affichée de la part des communautés de prendre le contrôle sur les processus de recherche. Et en ce moment, par exemple, il y a des communautés comme les communautés Atikamekw qui se trouvent au Québec, qui sont sursollicitées. C'est-à-dire que annuellement, il y a plus de 200-300 types de recherches qui sollicitent la communauté. Donc, ils doivent faire un choix. Et là, évidemment, ils vont choisir en fonction des priorités qui sont celles de la communauté pour essayer de voir sur quoi ils aimeraient qu'on travaille. Et il y a de plus en plus, et c'est extrêmement positif, et il n'y en a pas assez, des autochtones eux-mêmes qui font des études et qui rentrent dans le milieu académique et qui commencent à trouver des postes.
Oui, dans le milieu académique, mais justement, est-ce qu'il y a des filières en milieu autochtone, en région autochtone, qui s'intéressent à ces questions, ou il faut que ces populations-là viennent dans ce milieu que vous qualifiez d'académique ?
C'est pas facile parce que les conditions socio-économiques sont pas très simples, que il y a quand même effectivement une distance géographique, des enjeux qui font que ben la priorité c'est pas forcément les études et les infrastructures étant pas à côté, et les exemples étant pas là, c'est pas évident. Mais il y en a un certain nombre qui y arrivent et on espère que de plus en plus avec des processus d'autochtonisation de la recherche qui se mettent en place au Québec en ce moment, ben ça va s'ouvrir de plus en plus.
Malgré tout, ça les positionne d'un certain angle pour regarder leur propre culture.
Bien sûr, oui.
Et donc, c'est pas aussi évident que ça d'être totalement neutre.
Ah ben, de toute façon, en ethnologie, on n'est jamais neutre.
On n'est jamais neutre. Bon, très
bien. On part de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est le point de départ.
Je retire le
discours sur l'autre n'est pas neutre. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on est autochtone que forcément, on va avoir un regard qui va être plus objectif. Potentiellement, on est pris aussi dans des enjeux qui sont des enjeux politiques, territoriaux, notamment, puisque les traités sur le territoire, beaucoup de territoires au Québec sont non cédés et il y a des négociations actuelles pour avoir accès et discuter de ces questions territoriales.
Alors, tout ça, c'est, enfin, je vais qualifier ça, mais je suis là pour vous embêter, hein, un peu de subtilité. Est-ce que ces perceptions, disons, occidentales sont compréhensibles des peuples autochtones ou bien il y a une forme de rejet de toute façon ?
Incompréhensible, oui, puisque de toute façon, c'est avec ça qu'ils sont pris, avec ça qu'ils doivent vivre, en fait, et depuis très longtemps. Donc après, il y a des façons d'essayer de contourner ou de s'imposer ou de modifier un peu les rapports de pouvoir pour essayer de se positionner à son avantage, évidemment, et d'essayer de mettre les choses en perspective autrement.
On marche sur des œufs, en tout cas, en permanence.
C'est extrêmement compliqué.
C'est extrêmement compliqué. Et alors, un courant d'anthropologue, si j'ai bien compris, se qualifie d'évolutionniste. Qu'est-ce que c'est que l'évolutionnisme?
Alors, c'est l'anthropologie de la fin du 19e, début du 20e siècle. Donc, il y a un ensemble d'anthropologues des différentes parties du monde, là aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, qui essayent de comprendre les différences culturelles de culture matérielle entre les différents peuples. Et ils se disent que forcément, ce qu'eux vivent, c'est le top.
Oui,
c'est-à-dire qu'eux, ils sont tout en haut de la chaîne, là, et eux, c'est la civilisation, mais qu'il y a d'autres peuples qui ne sont pas arrivés à ce niveau aussi avancé qu'eux, et donc on place la différence culturelle sur une échelle temporaire, en se disant que, et en présupposant qu'on a une évolution, ce qui à l'époque est un peu progressiste, parce qu'avant on se disait qu'il y avait des différences qui étaient des différences biologiques ou des différences de nature, où on se demandait même si les gens étaient des humains. Donc là, on se dit, on est tous humains.
Au moins, on avait déjà fait un premier pas.
Donc ça, c'est humaniste. Mais après, y a des gens qui sont plus ou moins avancés dans ce processus d'évolution. Donc c'est ça, l'évolutionnisme. Évidemment, on a fait une croix là-dessus. Même si les idées évolutionnistes, malheureusement...
Il n'y a pas quelques petits
regains dans le café du commerce, certainement, En ethnologie, non, on a fait une croix dessus.
C'est bon, ça c'est réglé.
Après, l'anthropologie biologique, elle va parler d'évolution. Mais là, on parle d'un autre type d'évolution. Ce n'est pas évolution sociale et culturelle, c'est évolution biologique.
Bon, alors on invitera un anthropologue biologiste pour une autre émission. Vous avez peut-être vu, vous connaissez Jean Rouch. Il y a un film où on voit des Africains venir étudier le comportement des Parisiens en faisant des grandes classifications hâtives. Ils ont été très, très mal compris, on va dire, pour faire simple. Et c'est pour ça ma question tout à l'heure sur les autochtones. Est-ce que ça, on a cette même chose ici au Canada, ce regard autochtone sur ce que vous avez appelé tout à l'heure le milieu académique?
Il y a une perspective hyper critique. Il y a vraiment, avec raison, sur un certain nombre de sujets. Et évidemment, en tant qu'ethnologue, on essaye de comprendre des choses avec lesquelles on n'est pas forcément familier. Donc, il peut y avoir, on peut tourner les coins ronds, c'est-à-dire simplifier un peu les choses et puis se planter. Ça peut arriver, effectivement. Je pense, mais c'est aussi pour ça qu'on essaye de rester longtemps sur le terrain, pour essayer de ne pas rester sur une vague sensation un peu hâtive. On essaye de comprendre.
C'est quoi longtemps?
Je dirais que la durée classique d'un travail sérieux qui donnera lieu à un bouquin, c'est minimum un an. Donc, on commence à... On est loin des, juste des classifications un peu hâtives. En tout cas, un travail sérieux, là. Après, si on, c'est pas un bouquin, ça peut être moins longtemps. Mais disons que pour un doctorat, en tout cas, le canon, c'est à peu près un an et même plus.
Et comment est-ce que vous, vous choisissez vos domaines de recherche ?
Ben, il y a des choses qui dépendent du hasard, d'envie.
Parce que vous, par exemple, alors vous n'êtes pas québécoise d'origine, on l'entend, votre accent, même moi, j'arrive à le, à le distinguer. On pourrait s'attendre à des recherches au Canada, peut-être sur des populations du Grand Nord, par exemple, vous en avez cité tout à l'heure, mais vous travaillez actuellement sur les Andes, au Pérou. Alors, oui. Par quel chemin vous êtes arrivé là ?
Ben, c'est un peu du hasard là. Je devais partir au Pakistan. J'ai hésité à partir à Madagascar, mais j'avais beaucoup aimé le Brésil et j'ai terminé au Pérou.
C'est une branche la vôtre là, l'anthropologie flexible peut-être.
Non, après quand une fois que j'y suis quoi. D'accord. Mais disons qu'il y a eu quelques fluctuations et que j'ai fini par arriver au Pérou quoi. Et j'y suis restée.
Merci Ingrid Hall. Nous allons faire une première pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Méga et sur Radio CISM. C'est un exploit aujourd'hui. Vous écoutez deux radios à la fois dans l'émission La Quadrature du Cercle. Et c'est le moment quantique de l'émission avec ce fameux chat de Schrödinger qui mange et qui ne mange pas des patates, évidemment.
La capsule de Schrödinger, dégoupillée par Luc Charéron.
Appelons un chat, qu'il soit là ou pas. Il y a la foi, il y a la raison, il y a la vérité, il y a le mensonge, il y a le collectivisme, il y a l'individualisme. Bref, il y a de l'inconciliable en de très nombreux domaines. Et puis, il y a la solanum tuberosum, la pomme de terre. Et là, que l'on parle de la purée d'origine industrielle en flocons lyophilisés ou de la frite double cuisson à la graisse de bœuf préparée à partir de binge, eh bien, on parle toujours de la patate, on parle toujours de manger. Aller concilier le bien et le mal, pas moyen. Servez de la pomme dauphine, des gnocchis, des tortillas et du gratin dauphinois pour un même repas, que cela vienne des cuisines de la Tour d'Argent ou des bacs à surgelés de la dernière grande surface, personne n'y trouvera à redire et vous ferez la joie de tous vos convives, à commencer par les enfants qui demeurent les hôtes les plus difficiles à satisfaire. Nous voici donc en présence d'un élément à spectre large, à l'instar d'un arc-en-ciel qui réunit toutes les couleurs. Dans la quête encore inaboutie d'un système qui permettrait d'unifier toutes les explications de l'univers, qui réunirait l'infiniment grand et l'infiniment petit dans une même théorie stable et cohérente, la patate ne ferait-elle pas figure de précurseur ? Y aurait-il un chemin ? In patatas veritas. Alors si vous aussi, vous pouvez être plongé dans des questionnements abyssaux et existentiels à la vue d'une chips, dites-vous bien que vous n'êtes probablement pas le ou la seule et que cela n'empêche à aucun moment d'en discuter.
C'est un spectacle de vous voir à la fois faire la grimace et sourire, Ingrid Hall, en écoutant cette capsule de Luc Chariot. Une réaction quantique, peut-être ?
Ben, je trouve qu'il a raison. Moi, ça fait 12 ans, la patate, je m'en lasse pas.
Et on va voir si on trouve effectivement les fondements de l'univers là-dedans, parce qu'il y a plusieurs sujets de recherche qu'on va essayer de comprendre, que vous menez, et on va commencer peut-être, si vous avez des mots à dire là-dessus, par les cosmologies autochtones, si vous voulez bien. D'abord, de quel autochtone parle-t-on ? Est-ce que c'est un mot qu'on utilise qu'au Canada ou en Amérique du Nord ou en Afrique, ou ce mot-là, il est utilisé pour qui exactement ?
Alors, le mot autochtone, la racine grecque, c'est qui vient de la terre, donc a priori, qui vient du sol, donc chaque sol aurait ses autochtones qui sont les gens qui sont...
On est un peu tous
autochtones. Ouais. Donc on est tous autochtones quelque part dans ce sens-là. Maintenant, le sens s'est beaucoup spécifié, dans le sens où on a maintenant des groupes de travail des Nations Unies avec le Forum permanent des Nations Unies sur les peuples autochtones, et c'est une terminologie qui est devenue internationale. Et donc là, une définition de ce que c'est que l'autochtonie, qui est extrêmement large et qui est une définition qui est faite pour permettre de défendre les droits de certains peuples qui ont été colonisés, qui sont minoritaires, qui sont en tout cas dans des rapports de pouvoir très défavorables. Et après, ça dépend. Est-ce que les pays les ont reconnus, les ont pas reconnus ? Le cas du Canada, effectivement, on a 11 nations autochtones, en tout cas au Québec. Je vais parler du Québec, là, plutôt. Et qui sont reconnues comme telles, ce qui veut dire aussi, enfin, ce qui correspond au fait qu'ils ont un statut légal particulier qui a été mis en place par la loi sur les Indiens.
Oui, donc on s'est un peu écarté du sens initial. Est-ce que c'est un terme qui est choisi aussi par ces populations-là ou qui fait polémique ?
Ah non, c'est vraiment un terme qui est revendiqué, qui est utilisé, qui est même revendiqué par rapport à la loi canadienne, c'est la loi sur les Indiens, et le terme indien est un terme qui est péjoratif et que là, effectivement, pour lequel il n'y a pas d'adhésion. Donc justement, pour se distancier de cette histoire et de cette histoire coloniale et mettre en l'accent sur la gentilité, sur la possibilité d'action... la capacité d'action, le fait de pouvoir prendre les choses en main, quoi, et de dire, nous, on n'est pas seulement ce que vous voulez qu'on soit. Nous, on veut être autre chose. Et puis d'aspirer avec des populations qui militent à l'international pour ça, et donc de revendiquer ces droits qui sont encadrés par un régime international.
Alors, je ne sais pas, on va revenir sur les cosmologies. En quoi est-ce qu'elles sont intéressantes ? Je ne sais pas si c'est un petit peu votre domaine ou pas, ou quels sont les aspects qui diffèrent radicalement d'un groupe humain autochtone à un autre, ou qu'on retrouve partout sur les cosmologies ?
Moi, j'aime pas beaucoup ce terme-là.
Ah, en fait. Et pourquoi donc ?
Mais parce que je trouve que cosmologie, il y a cette idée d'une cosmologie qui est un certain nombre d'histoires ou de représentations qui sont abstraites et pas tout à fait logiques. Et de ce côté-là, ça me dérange profondément. Après, il y a une redéfinition avec le cosmos qui engloberait les différents êtres, humains et non humains, et dans lesquels on essaye de se poser la question des relations entre ces différents êtres-là. Et là, ça me paraît plus intéressant. Mais je le trouve tellement chargé de cette conception très ancienne et puis poussiéreuse de ce que c'est qu'une cosmologie que j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Ce qui fait que en fait, je ne travaille pas là-dessus. Mais effectivement, je vais travailler sur un certain nombre de récits. Sur les pommes de terre, là, on a commencé, voilà. Comme on a vu dans la chronique, effectivement, c'est un thème qui m'intéresse au plus haut point. Mais on se pose les questions, en se posant les questions autrement, en fait.
Ben justement, en vous écoutant, est-ce que c'est... Alors, on va quand même employer le terme, même s'il ne vous plaît pas, mais on a compris ce que vous représentez. D'accord, il a dit d'accord. Est-ce qu'elles sont très importantes dans ces sociétés, ou bien est-ce que c'est le rapport à la nature qui est plus prédominant? Ou peut-être qu'il y a un lien entre les deux et que ça forme un tout?
Non, moi, je pense que la nature, ça n'existe pas.
Carrément. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, on va d'abord effectivement parler des pommes de terre, parce que tout d'un coup, quand on regarde votre cursus, ce que vous faites, on tombe sur un article intitulé « L'énigmatique sourire de la pomme de terre ». Ouais. Donc là, je ne sais pas de quelle cosmologie on parlait tout à l'heure, mais c'est la redescente immédiate sur Terre et même sous la Terre. C'est toujours comme ça d'être anthropologue? On peut bifurquer sur des sujets très variés? On peut s'attendre à tout avec vous?
Ouais. Ben, à la fois, on peut prendre des sujets très, très larges et puis finalement, on devient très pointu. Et puis, on peut aussi reprendre un sujet qui a l'air d'être hyper pointu, c'est-à-dire, là, dans mon cas, la conservation des pommes de terre natives des Andes, et en fait, déboucher sur un tas de sujets extrêmement larges. Moi, je n'ai pas encore fait le tour. Et je suis loin d'avoir fait le tour.
Mais alors, c'est une formulation que vous avez voulu amusante ou intrigante, ou qu'est-ce que c'est que ce sourire des pommes de terre?
Alors, à la fois, oui, effectivement, c'est un peu provocant puis pour intéresser les gens. Mais en même temps, ça correspond à un ensemble de choses que j'avais observées, de choses dont j'avais discuté avec des producteurs de pommes de terre dans les Andes, des petits paysans andins, des personnes qui vivent dans des communautés à 3500, 4000 mètres d'altitude, là, puis qui cultivent pas mal de pommes de terre natives. Puis en même temps, sur une expérience particulière où on était en train de... La récolte des pommes de terre avait eu lieu il y avait peu de temps, là. Donc c'était au mois de juin, je pense que c'était en 2015, il me semble. Et on était en train de trier des pommes de terre, parce que donc les pommes de terre avaient été récoltées, donc on était dans la Puna, hein, il y avait toutes les montagnes autour de nous, c'était la saison sèche, c'était tout un peu grillé là, on avait les pommes de terre qui étaient mises sous des grandes tiges jaunes pour les protéger du soleil, et il fallait trier les pommes de terre qu'on allait ressemer l'année suivante. Et là, il fallait apprendre à les regarder pour sélectionner celles qui pourraient grandir et qui avaient des qualités sanitaires, etc. Puis, moi, je ne savais pas, je leur ai dit, montrez-moi. Ils m'ont dit, vas-y.
C'est ça, quel était le critère, en fait, de sélection?
Moi, j'étais un peu coincée. Puis là, je leur dis, mais celle-là, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Mais non, regarde, elle est comme ça. Ah, d'accord. Bon, alors celle-là, non. OK, celle-là, oui. Et en fait, au fur et à mesure, donc on parlait des yeux de la pomme de terre. Tu regardes les yeux, tu verras bien s'ils sont à moitié morts ou s'ils sont vivants ou s'ils sont... Et puis au bout d'un moment, ça a duré, je ne sais pas, une heure et demie, on papotait, comme ça, on était sur les pommes de terre, je leur demandais. Et puis au bout d'un moment, ils validaient de plus en plus. Puis je commençais à les voir sourire. J'avais l'impression de les voir sourire, c'est-à-dire de sentir que... ce petit tubercule que j'avais dans la main, il était en santé, il me souriait, qui me disait « Ok, d'accord, c'est bon, moi, l'année prochaine, je suis prêt. »
Mais c'est ce que vos collègues péruviens disaient, ils employaient ce terme-là de « sourire pour les pommes de terre »
Non, c'est là où, du coup, c'est un peu ma terminologie.
Okay.
Mais par contre, ce dont eux parlaient beaucoup, c'était du fait que les pommes de terre, elles ne devaient pas pleurer. Que si les pommes de terre pleuraient, alors elles ne reviendraient pas.
Donc celles-là, il ne fallait pas les garder pour l'année prochaine?
Non. L'état de... Et c'est pour ça que j'ai été chercher... Alors ça, c'est un concept qui est proposé par deux auteurs, Utsak et puis Natasha Myers, et qui parle d'écologie affective. C'est-à-dire de comment est-ce que des non-humains, dans ce cas-là, la patate, elle est prise dans des relations... elle a des affects, déjà, et elle est prise dans des relations avec des humains, puis des non-humains. Et en fait, elle a des émotions. Et donc, dans le cycle de culture de la pomme de terre, il faut faire des choses pour qu'elle pleure pas, il faut faire des choses pour la réjouir. Et dans les Andes, pour les humains, c'est la même chose. En fait, il faut pas être trop énervé ou trop, il faut maintenir un équilibre.
Donc là, vous parlez des humains.
Là, je parle des humains.
Et donc des pommes de terre également.
Mais je me suis dit, en fait, pour les pommes de terre, c'est un peu la même chose. Donc, il faut pas qu'elles pleurent, il faut pas qu'elles soient mortes de rire, il faut qu'elles sourient.
Parce que vous dites, j'ai pu lire, que vous étudiez ceux qui interagissent avec ces plantes pour rendre compte d'un récit incarné dans lequel plantes et humains interagissent, enchevêtrés à la fois matériellement, mais également affectivement.
Ouais.
C'est exactement ça. Ils voient les pommes de terre presque comme des entités humaines. En tout cas, certains aspects.
C'est-à-dire, c'est des...
Ils ont envie de les reconnaître. Ils ont envie de voir ces aspects-là.
Ils estiment que c'est des êtres vivants, de la même façon que les montagnes, que les animaux, etc. Et qu'on a des échanges avec eux et qu'ils ont ce qu'on appelle là un animal. Je vais traduire par âme, ce n'est pas une bonne traduction, là, mais on va en partir avec ça. Là. Les patates, c'est comme les humains, en fait. Ça a besoin d'être bien entouré, ça a besoin de pas être trop triste, ça a besoin de
Ça vous a surprise d'être comme ça, de basculer dans ce rapport-là, vous, à la pomme de terre? Parce qu'avant de voir ça, à l'école d'agronomie, c'était pas votre cas, c'était pas le
cas. Non, à l'école d'agronomie, c'était pas ça. Mais dans la recherche précédente que j'avais faite, où j'avais travaillé sur l'agriculture, il y avait déjà un certain nombre de choses de cet ordre-là, que j'avais compris. C'était plus sur les sols, les classifications de sols, l'eau, etc. Enfin, des choses que j'avais amenées de mon cursus d'agronomie, puis que j'avais un peu vues, mais avec des yeux d'ethnologue, en essayant de comprendre les gens avec qui je discutais voyaient. Là. Donc, j'avais fait tout un travail sur les classifications de sols, avec les classifications de sang. Donc, du coup, il y avait des choses sur lesquelles j'étais déjà familière. Je savais que les plantes avaient des âmes, etc. Mais c'est vrai qu'en arrivant là, je ne savais pas qu'on allait me parler de tout ça de cette façon-là et que j'allais développer ce genre de choses, en fait.
Et alors, comment vous avez travaillé sur cette question des sentiments? Parce que vous êtes une scientifique, même si c'est une science douce, l'anthropologie, c'est pas... Bon. Par quel processus expérimental? Comment vous interprétez vos observations? Comment est-ce que vous dites, tiens, celle-ci, elle sourit, celle-ci, elle ne sourit pas? Quel moyen quasi objectif vous avez de...
Je m'en fiche de l'objectivité. Vous voulez absolument que je sois objectif?
J'essaye. Moi, je suis là pour vous embêter, pour comprendre quelle est votre... bon, d'accord. Pour comprendre quelle est votre démarche scientifique là-dedans, mais c'est pas le cas.
L'ethnologie, non, mais c'est pas parce que j'assume la subjectivité que ce que je dis, ça a pas de valeur scientifique.
Bien sûr.
Ce que je veux dire, c'est que quand on est ethnologue, on travaille avec les gens, on travaille avec ce que les gens nous disent, ce qu'ils font, des observations. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce que me disent mes interlocuteurs. Et quand mes interlocuteurs me parlent d'une pomme de terre qui ne doit pas être triste, d'une pomme de terre qu'il faut réjouir, pour laquelle il faut jouer de la musique, pour laquelle il faut danser, pour laquelle il faut montrer du respect, de l'affection, mes observations, ça va être à la fois des observations de gestes, de respect ou d'affection, comme de frotter une pomme de terre, comme d'enlever ses chaussures au moment où on va aller récolter, comme d'aller chanter, etc. Mais ça, moi, je vais pouvoir l'observer de différentes façons où les gens vont pouvoir me le dire. Donc moi, comment je travaille, c'est toutes ces données-là qui sont hyper subjectives. Je n'ai pas besoin d'aller faire un dispositif expérimental pour vérifier si elle sourit ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les gens travaillent beaucoup autour de cette idée-là. Est-ce que cette idée-là, c'est quelque chose qui est vraiment ancré? Et à ce moment-là, d'essayer de la comprendre. Non pas avec des méthodes objectives, mais au contraire, en allant explorer la cohérence de ce discours-là pour essayer de l'expliciter, parce que ce n'est pas une idée qui est si évidente que ça, qu'une pomme de terre
sourit.
Non,
ce n'est pas évident. Et après, vous la mangez? Vous y repensez?
Quand on va les planter l'année suivante, non, là, mais celles qui sortent du four pendant qu'on est en train de récolter des patates, en plus, c'est les meilleures que j'ai jamais mangées, donc oui.
Alors, est-ce que les pommes de terre sourient ou est-ce que les humains pensent et donc voient les pommes de terre sourire? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Non.
Non.
Non, et tant mieux. Ingrid Hall, il est temps de faire une seconde pause musicale qui va nous emmener vers d'autres mondes autochtones.
Safari, Vallecamba. safari goye kamba de bine doru safari goye kamba ha
Vous écoutez La Quadrature du Cercle, l'infusion scientifique de Radio Méga. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les émissions précédentes sur le site www.radio-mega.com ou sur le SoundCloud de la radio. Vous pouvez également nous écrire et nous raconter ce qui vous passe de scientifique par la tête à l'adresse laquadratureducercle@radio-mega.com.
Sur Radio Méga et, je le répète, sur Radio CISM qui est dans la nature, puisque j'ai vu tout à l'heure en venant au studio des écureuils bruns sur les arbres du parc qui est juste à côté. Cette nature qui se prête par essence à une réflexion philosophique mise en voie aujourd'hui par Sarah Gontier-Buffo.
De Spinoza, portée par Olivier Benoît.
L'énigme métaphysique de la nature. Qu'est-ce que la nature ? Elle est sans doute la notion à laquelle on est prêt à donner une définition évidente et simple. En particulier nous, les modernes et postmodernes, héritiers du matérialisme scientifique qui prend ses racines dans l'atomisme épicurien. La nature serait une donnée physico-chimique et biologique, ce qu'on nomme environnement. Pourtant, cette conception est incomplète. Elle dérive d'une conception clarifiée par les cartésiens selon laquelle la nature n'est que matière, c'est-à-dire figure, étendue et mouvement. En réalité, la nature apparaît davantage comme étant une notion métaphysique. Les approches scientifiques de la nature n'étant qu'une application d'une conception métaphysique singulière. L'une des premières questions métaphysiques est: où situons-nous la nature ? est-elle seulement la réalité matérielle qui nous entoure, voire au sein de laquelle nous vivons et à laquelle nous devrions nous conformer pour bien vivre? C'est ce à quoi nous invitent Épicure et Lucrèce. Ou bien est-elle davantage un principe supérieur de vie, un principe d'intelligibilité animé par une intelligence rationnelle, le logos, qui déterminerait toute chose existante, les étangs, pour reprendre un concept de Heidegger? C'est ce que soutiennent en particulier Pythagore, Platon et Spinoza. À ce compte-là, la nature matérielle, la nature naturée, comme la nomme Spinoza, ne serait que l'émanation de la nature naturante, principe d'intelligibilité. Il faut donc faire son choix, un choix arbitraire. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu vois, et réciproquement. Une autre question se pose. Où situons-nous l'homme par rapport à la nature? Dedans? En dehors? L'approche anthropologique nous apprend que, quand bien même nous supposerions que l'homme provient de la nature, à cause de sa nature biologique, il n'est pas un peuple qui est considéré vivre dans la nature ou en harmonie avec la nature. En effet, l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss indique que toute recherche de la dite harmonie avec la nature repose sur une croyance en la surnature. Or, la surnature n'est plus la nature. Toute l'anthropologie contemporaine montre que l'homme n'est pas un être de nature, mais qu'il est un être de culture. Les théories politiques de l'état de nature désignent celui-ci comme un état pré-civilisationnel caractérisé par la liberté et la bonté naturelle. Or, cette liberté naturelle dont parle Rousseau, Hobbes ou encore Locke, se traduit par le régime de la loi du plus fort, par la tyrannie. Et cette bonté naturelle à laquelle Rousseau est attaché se traduit par l'amoralité qui dégénère en la plus grande violence et barbarie, comme le développe Freud. Violence que l'éducation, c'est-à-dire la culture, doit nous faire refouler. Les pères fondateurs des États-Unis, lecteurs de Locke, ont cru trouver en Amérique l'état de naturel originel, très loin de l'état civil où règnent les lois humaines arbitraires et relatives. Ils ont voulu préserver cet état de nature, de liberté et de justice naturelle. Ils n'ont pas compris qu'en instaurant leur droit de propriété, ils commentaient l'acte d'appropriation, l'un des plus violents de l'histoire des hommes, un acte de culture. Alors, connaître, comprendre, protéger la nature? De quoi parlons-nous? De l'insaisissable, peut-être. Rappelons-nous avec Héraclite que la nature est une contradiction perpétuelle. Elle tend à l'unité qu'elle ne peut atteindre. Elle ne peut toujours et d'abord que vouloir se conserver par l'éternel retour du même, vu la contradiction qui toujours menace de l'achever. Le feu est cette dialectique temporelle, se conserver en se consumant.
Fini.
Ah ben, heureusement, j'allais dire, c'est dense. Alors Ingrid Hall, tout à l'heure on m'a dit la nature n'existe pas. Moi je vous pose la question, j'ai mis un N majuscule en écrivant mes notes à nature, au niveau orthographique déjà, je mets un N majuscule, j'en mets pas, ça existe pas, c'est dame nature comme on dit parfois, qu'est-ce que... Expliquez-moi, je suis perdu.
Mais je pense que comme dans la capsule qu'on vient d'entendre, on a une longue tradition et une longue tradition philosophique qui va parler de la nature et qui va le supposer existante et lui mettre un N majuscule.
Ouais.
Et puis...
féminiser même, puisqu'on dit dame nature.
Aussi. Puis, en fait, on se rend compte que c'est vraiment issu dans une... C'est vraiment inscrit dans une histoire et dans une tradition spécifique, très euro-occidentale, en fait, très liée au développement des sciences... Plus récemment, des sciences naturelles, mais que en fait, pour beaucoup de populations, ça n'a pas de sens. On n'a même pas de mot qui existe, qui soit équivalent de nature dans beaucoup de populations.
Donc, c'est pas un concept universel, c'est pas une idée.
C'est ça. C'est ce qu'a proposé Philippe Descola, qui a, entre autres choses, là, mais qui a écrit un ouvrage qui s'appelle justement « Par-delà nature et culture sur le sujet », et qui a un chapitre en particulier qui s'appelle « Le grand partage sur la séparation entre la nature et la culture ». Mais en fait, ça, c'est un espèce d'accident historique. C'est-à-dire que pour beaucoup de populations, et bon, beaucoup de populations qu'on va qualifier d'autochtones, mais pas seulement, ça ne marche absolument pas comme ça. Au Japon, en Chine, ça ne fonctionne pas comme ça non plus. On ne va pas identifier la nature. Donc c'est là où on se rend compte qu'il n'est pas universel. Et alors, comment on fait ailleurs ?
Ben oui, comment on fait ailleurs et comment on fait nous pour nous en sortir ? Peut-être, c'est tant qu'on a besoin de s'en sortir, mais tout à l'heure, vous disiez que c'était subjectif, l'ethnologie, c'est de voir justement tous les peuples, leur rapport à différents éléments. Ben, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que dans certaines sociétés, on n'aurait pas une nature existante qui serait séparée, entre guillemets, de l'homme, et puis dans d'autres, pas ?
Alors,
ah.
Non, ben, oui, je comprends tout à fait. Ben, effectivement, dans certaines sociétés, dont la nôtre, que ce soit en France ou que ce soit au Québec, mm-hmm. ben, la nature, ça existe, on sait ce que c'est.
Ben, oui, enfin,
c'est-à-dire que pour un certain nombre...
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, ça existe, puisque pour les gens, ça existe de cette façon-là. Mais pour plein d'autres gens, ça n'existe pas. La difficulté, c'est de se dire...
C'est comme le sourire des pommes de terre. Pour nous, la nature existe. Enfin, je dis nous.
Oui, mais c'est-à-dire que les composantes... On n'est pas obligé, en tout cas, on n'est pas obligé de concevoir l'ensemble des éléments qu'on mettra dans la nature, les rivières, les arbres, les patates, les pierres, etc., comme relevant de la nature et n'étant pas pris dans la culture. On n'est pas obligé de faire cette division qui, même chez nous, demande tout un travail. C'est Bruno Latour qui parlait de purification. C'est-à-dire, il faut tout le temps se rappeler. Attendez, c'est un chien. Oui, mais c'est mon petit chien adoré. Est-ce que c'est effectivement un animal qui relève de la nature ou est-ce que... Donc, il y a tout un tas d'objets qui sont hybrides, là, qui sont un peu pénibles. Donc, il faut les remettre à sa place en permanence. Mais on peut aussi se dire que, bah, OK, mais dans ces cas-là, comment est-ce que ça se passe ? Et même chez nous, je veux dire. Vis-à-vis des chiens, des animaux domestiques, par exemple, mais vis-à-vis d'autres choses, la relation, en fait, elle n'est pas aussi nette entre ce qui... la distinction entre ce qui relève de la nature et de la culture n'est pas aussi nette. Le problème, c'est quand on prend cette grille de lecture et qu'on essaye de l'appliquer sur une réalité que les gens eux-mêmes ne voient pas de cette manière-là, comme les patates qui s'échappent.
Mmh.
D'un seul coup, ce n'est pas de la nature. En fait, c'est des êtres avec lesquels on a des relations et qui ont des émotions. Waouh, on en fait quoi ?
Et comment on s'en est éloigné, nous, alors, de cela, dans nos cultures, nos civilisations ?
Il y a tout un historique. Il y a déjà une tradition qui est une tradition qui est mobilisée là, dans le podcast, qui est une tradition philosophique de l'Antiquité. Ça a été travaillé, en tout cas, c'est ce que va mentionner Philippe Descola, aussi dans l'art pictural. Où on a des basculements dans la façon dont on va représenter les humains qui sont extraits de leur environnement ou pas, et à travers les sciences et notamment les mécanismes expérimentaux, soit de techniques d'observation, soit du plus proche, soit du très lointain, comme avec les éclipses.
Oui. C'est vrai qu'on a vu ces jours derniers une très très belle éclipse dans le ciel du Québec. Voilà, c'était ça l'allusion.
Un petit peu, pas seulement, mais voilà. À votre formation aussi, puis bien, à votre parcours, et où ça, on est ça. Puisqu'il faut un appareillage spécifique et assez sophistiqué pour le regarder, ça induit cette rupture.
Mm-hmm.
Qui est une rupture pas seulement technologique, mais de c'est pas des humains, quoi. C'est pas de l'humain, c'est autre chose. Donc c'est du côté de la nature.
C'est autre chose. Mais alors, si l'humain fait partie pour ces populations de la nature, comment l'étudier dans ce cas, puisqu'on est à l'intérieur d'un système ?
Si
on étudie, on est de facto en dehors. On pourrait, par exemple, à l'instar de la mécanique quantique, dire que dès qu'on est observateur, on intervient sur un système étudié et on ne peut pas savoir ce que serait ce système si on n'était pas là.
Mais on peut aussi prendre ça comme une des composantes de la situation. C'est-à-dire que les pommes de terre, ça a été domestiqué il y a 8000 ans dans les Andes. Il y avait des variétés qui étaient des variétés sylvestres. Ces variétés, elles ont été domestiquées progressivement. Sur 8000 ans, on arrive maintenant à près de 4000 cultivars, c'est-à-dire différents types de pommes de terre qui sont cultivées, qui sont des cultivars natifs, c'est-à-dire qui ne sont pas sélectionnés, etc. Donc ça veut dire que cette interaction entre ces petits tubercules sylvestres qui ne sont pas bons à manger, qui sont tout petits, et les humains, ont produit plus de 4000 cultivars différents. Il s'est passé quelque chose.
Oui, il s'est passé quelque chose.
Il y a un certain nombre de connaissances et donc une certaine étude. Et pourtant, sans objectification, sans nécessité de faire de la nature et des pommes de terre des objets. Donc, est-ce que ce n'est pas nous qui avons instauré un rapport particulier à ce que nous observons et en voulant nous extraire de cette relation ?
On pourrait dire ça, mais j'ai l'impression que là, vous optez plutôt pour une vision que pour une autre, alors que vous disiez dans le début de l'émission qu'on pouvait s'accorder de toutes les visions subjectives que l'on veut.
Mais si on regarde en France, par exemple, les semences paysannes, ils ne vont pas du tout être d'accord avec la vision de l'INRA concernant les semences et les législations en termes de semences, où il faut que les semences correspondent à tel type de critères qui sont calqués sur des process industriels.
Alors, je reviens même sur le mot anthropologie, mais vous intégrez d'autres éléments comme les animaux, les plantes, les pierres, vous avez dit. Anthropos, c'est bien l'humain. Alors, est-ce que ça ne relève pas d'autre chose que de l'anthropologie, ce que vous faites ? Est-ce que c'est pas le bon ? Est-ce que c'est pas le mauvais mot ?
Ou alors, est-ce que en concevant l'anthropologie comme étant une anthropologie réduite à l'humain, on n'a pas exclu plein d'autres êtres avec lesquels les humains de facto, comme les patates, échangent et considèrent qu'ils échangent, et donc on sait un peu. Alors ça dépend sur quel sujet on parle, mais en tout cas quand il s'agit d'interagir avec des animaux ou d'interagir avec des plantes, est-ce qu'on n'a pas tronqué l'expérience à laquelle on s'intéressait en refusant d'accepter l'idée que effectivement des patates sont des partenaires sociaux.
Oui, bien sûr. Ça m'en donne envie de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur, j'ai envie qu'on se tutoie, parce qu'au Québec, on se tutoie, et je trouve ça tellement plus simple, et ça n'exclut rien. Allez. Donc, tu m'as parlé tout à l'heure de ta formation en agronomie, où tu étais une scientifique pure et dure. Et là, maintenant, plus du tout, quand on entend ce que tu dis là. Comment ça s'est passé en toi, cette transformation ? Est-ce que tu as encore des relents de scientifique, ou plus du tout,
Ben, je pense que c'est un bagage. L'anthropologie, c'est une discipline très accueillante. Et je pense que plus on a de cordes à son arc, et l'agronomie, pour moi, c'est une corde importante à mon arc, plus on peut s'intéresser à des choses précisément. Et donc, effectivement, moi, ça, à la fois, j'ai compris dans mon parcours à quel point les certitudes qu'on me donnait, qui étaient des certitudes techniques, ben, finalement... j'avais pas vraiment envie d'en faire quelque chose, parce qu'on me demandait de trouver des solutions techniques à des problèmes ou des cultures que je connaissais pas, et je trouvais ça un peu aberrant de s'adresser à moi. Donc voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était autre chose, c'était les gens, les humains, ce qu'ils disent. Et là, une des difficultés, c'est qu'effectivement, on est face à plusieurs types de discours, et il y a plusieurs vérités qui peuvent coexister. Et en fait, ce n'est pas un problème.
Ah, ce n'est pas un problème, sauf que comment l'anthropologue que tu es a un espoir de réunir différents mondes ? Par exemple, on va prendre une exploitation minière. Il y a des gens qui voient la nécessité de chercher des minéraux pour nos batteries de téléphone, ceux qui voient un drame, et là aussi pour des raisons de pollution, mais aussi pour des raisons difficiles à appréhender comme nous, comme on l'a dit tout à l'heure, l'existence d'une divinité qu'on fâcherait en fracassant la montagne. L'anthropologue est là pour... Mais comment on va réunir toutes ces visions-là ?
Ben déjà, avant de pouvoir réunir, il faudrait les comprendre,
oui,
ces différentes conceptions.
Les comprendre, enfin les accepter, elles sont là.
Oui, mais souvent, d'un point de vue, dans les discours et particulièrement dans les conflits miniers, le point de vue des communautés autochtones ou des communautés locales, surtout s'il est question de divinité incarnée dans une montagne, comme c'est le cas dans les Andes,
voilà.
On dit mais ils ont pas fait d'études, ils savent pas de quoi ils parlent, et donc on ne le prend pas en considération. Donc moi, je trouve que c'est un rôle politique de la part des anthropologues que d'essayer de montrer comment ça fonctionne et à quel point ce n'est pas juste des représentations ou des idées abstraites erronées, mais qu'il s'agit d'une façon de concevoir le monde qui est une façon de concevoir le monde qui est différente de la nôtre et que la nôtre refuse de prendre en considération. Donc, pour pouvoir s'écouter et construire un monde commun, comme en parle Isabelle Stengers ou Bruno Latour, il faudrait déjà qu'on les connaisse, ces mondes-là. Et je pense que là, c'est un travail ardu pour lequel, en tant qu'anthropologue, on pose des jalons depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, mais qui est loin d'être abouti. Et je trouve ça important de faire remonter ça et de montrer justement comment est-ce que ces mondes ils peuvent coexister. Ils sont là de facto, mais il y en a un dont on ne porte pas qui n'accède pas à la parole, en fait.
Un vivre ensemble planétaire.
Oui, mais déjà, outre les autres humains, il y aurait déjà des humains qui sont déjà sacrément désavantagés dans les conflits environnementaux contemporains.
Je reviendrai tout à l'heure sur l'écologie politique. Ingrid Hall, on approche de la fin de l'émission et il est temps d'aller voir du côté de la poésie asymptotique, du slam parabolique, en un mot de la pareidolie concoctée par Sam.
Du plus loin qu'ils m'en souviennent, entrenappés de lune et de soleil, de bien, de mal, de faux, de vrai. Je cherche l'équilibre, l'équivalent mon âme ivre, l'équivocable à mes délires vogue parmi mes nuits de cire, l'œil bienveillant et bord à ras. Je cherche l'équivalent lame de fond qui se veut l'encre, croche au tréfond, besoin primaire de nos racines, désir d'éveil comme de cime, comme plancher de mes plafonds. Je veux mon œil qui s'illumine, mon cœur qui dicte la raison des fruits de braise pour chaque saison. Mes lames sont d'or et je m'évente. Qu'avons-nous fait de nos mystères? Où est l'ancrage à nos instincts? L'amour pour ultime chimère est comme toute seule d'une vie de chien. Je préfère me souvenir que je suis pierre et eau de larmes, flamme fugace et vent debout, forêt fertile et puis bois sec, matière inerte en mutation, l'aile dans lui, l'île dans l'aile. Je restaure dans l'ineffable l'être divin qui me pétrit, l'air primaire qui me nourrit, le grand tout dont je fais partie, élément, terre, de la joie du manioc à la tristesse de la pomme de terre, l'insoutenable légèreté de la montagne qui nous regarde se mue en petits grains de sable dans les rouages du capital. Isthme occidental qui nie notre pluralité, humanité décapitée au capiton de ses œillères. Unis vers et contre l'aveuglement, comprendre que par nature, nous en sommes. Le conjugué d'un nombre complexe est la partie imaginaire opposée à la partie du réel supposé. Or nous sommes connexes et déposés dans la matière. Entendre une autre façon de voir. Toucher une autre façon d'aimer. Sentir et goûter nos sens se jouer de nos croyances, apprendre à compter l'infini, être au futur mais sans l'avoir, chevaucher le serpent cosmique, embrasser la magie de l'existence, rouler sa bosse en plurivers.
Fini.
Ingrid Hall. Tu souris comme une jolie pomme de terre.
Merci. Quel beau compliment.
Ah bah oui, j'espère que c'est pris comme ça. Est-ce que c'est l'anthropoésie la clé?
Moi, je pense que
il faut se
sortir. On a des velléités de renouer et l'art est un des vecteurs par lesquels on essaye de renouer, que ce soit la littérature, que ce soit les arts plastiques, etc. Des performances. Et on se projette vers un reconstruire une relation, le renouer. Mais dans un certain nombre de cas, et c'est le cas des petits paysans qui produisent des patates dans les Andes, dans les communautés, cette relation, elle n'a jamais été coupée. Il n'y a pas besoin de la renouer. Et, et c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à envisager. Et je pense que c'est important de...
Il faut la voir, enfin.
C'est ça. Mais moi, je n'ai pas vocation à rendre ça sous forme de fiction ou de poésie, etc. Mon rôle là-dedans, j'ai l'impression... En tout cas, c'est comme ça que je le sens, là. C'est d'essayer de rendre compte ce que ça veut dire pour ces personnes-là quand ils disent que leur pomme de terre, elle est en vie. Quels sont les types d'interactions ils ont? Et je pense qu'il y a toute une grammaire des possibles qu'on peut montrer. Et les anthropologues, en allant voir les gens, en posant des questions et avec ce changement ce que un des chercheurs appelle une écologisation de l'anthropologie, on arrive à montrer, je pense que ça peut venir alimenter toute cette réflexion qui est sinon très autoréférentielle et fictionnelle.
Alors j'allais juste te demander, juste avant de conclure cette émission, si tu avais une dernière réflexion peut-être à nous livrer, mais résumé en une phrase, une formule, ce que tu viens de nous dire. Le rêve de toi, anthropologue, aujourd'hui.
Moi, je pense qu'il faut être attention, à faire être attentif à ce qu'on a autour de soi. Il y a des tas de relations de ces objets ou de ces êtres qui nous entourent, que ce soit, je sais pas moi, un tabouret, une patate, une pomme, ou être attentif finalement et d'être ouvert à ces types de relations et de d'accompagner ce mouvement de réimager, de réhabiter notre monde.
Merci beaucoup, Ingrid Hall. Et merci à Étienne, à la radio CISM. Donc, il n'y a plus de vitres, là. On est direct. Et la prochaine fois, alors, dans cette quadrature du cercle, on va partir avec un des derniers explorateurs du Sahara, qui est archéologue et préhistorien. Ce sera Thierry Tillet.
Bah maintenant, c'est fini.
Au revoir.
C'était La Quadrature du Cercle, l'infusion scientifique de Radio Méga, une émission proposée et animée par Marc Bionomo.